Donc, on continue notre étude d'Éphésiens. On avait commencé la semaine passée, on avait fait une introduction d'Éphésiens. On avait dit que le livre peut se comparer au livre de Josué, du fait que dans Josué, il envoyait les espions pour voir les bénédictions spirituelles dans le pays de Canaan, pour ensuite marcher sur le pays, aller rentrer, prendre possession. Il fallait que le Seigneur avait dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Puis c'est ce qu'on va voir aussi dans Éphésiens. On a dans le premier chapitre, on a vu les bénédictions spirituelles. On va continuer là-dedans ce soir. On avait vu le premier couplet de ça. Mais après ça, dans la partie pratique, on va voir qu'il faut marcher. Il faut marcher pour posséder nos bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Nous, c'est pas dans la terre de Canaan, mais c'est dans les lieux célestes qu'on a nos bénédictions spirituelles. On avait parlé qu'il y avait dans Éphésiens, dans les versets 1 à 13, à 14, on a les bénédictions spirituelles. Puis on avait dit qu'il y avait trois sections dans ces bénédictions spirituelles par la Trinité. On a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Puis on a toujours un refrain qui revient, c'est pour célébrer sa gloire, que dans le verset 6, dans le verset 12, dans le verset 14. Après chacun des. On avait vu ce que le Père fait. Le Père, lui, c'est dans la planification. Et avant la fondation du monde, il avait planifié. Le deuxième couplet, c'est le Fils qui, lui, en fait l'exécution. Le Père a planifié, le Fils en fait l'exécution. Puis le troisième couplet, c'est le Saint-Esprit qui, lui, en fait l'application. On avait vu la semaine passée ce que le Père a fait dans la planification. Puis on va voir maintenant, on va aller dans ce que le Fils fait dans l'exécution. Mais j'avais oublié la semaine passée de vous donner le plan de l'Épître aux Éphésiens. Fait que j'ai oublié. Donc maintenant, je vais vous donner le plan. C'est un plan que moi j'ai fait. D'autres peuvent avoir un autre plan, puis c'est correct. Mais dans le chapitre 1, les versets 1 à 2, c'est la présentation. Paul se présente et il fait les souhaits pour les Éphésiens. Dans le chapitre 1, les versets 3 à 14, il donne la liste des bénédictions spirituelles. Dans le chapitre 1, versets 15 à 23, c'est la première prière de Paul pour les Éphésiens. Puis on voit ça quand Paul, il écrit, à un moment donné, il tombe en prière. Puis dans l'Épître aux Éphésiens, il y a deux prières. La première prière, c'est le chapitre 1, les versets 15 à 23. Après ça, dans le chapitre 2, les versets 1 à 10, c'est la grande transaction de ce qu'on était auparavant, mort dans nos péchés, puis on est venu à la vie, on était ressuscité avec Christ par la foi. Donc ça, c'est la grande transaction. On nous a pris dans ce que nous étions, morts dans nos péchés, puis nous a rendus vivants avec Christ et nous a donné la vie éternelle. Dans le chapitre 2, le verset 11, aller au chapitre 3, le verset 12, il nous parle ici du mystère de l'Église. Le Seigneur nous a sauvés, puis nous a placés par le baptême du Saint-Esprit, nous a formés dans un seul corps. Puis ça, c'est le mystère de l'Église, quelque chose qui était caché auparavant, mais qui a été révélé maintenant. Paul a eu la révélation, il nous en donne cette révélation-là. Quand on parle de mystère dans le Nouveau Testament, ce n'est pas nécessairement des choses qu'on ne peut pas comprendre. Des fois, il y a des gens qui disent, ah, c'est un mystère, essaye pas de comprendre. Mais les mystères dans le Nouveau Testament, c'est des choses que l'on peut comprendre quand ils nous sont révélés. On n'aurait pas pu les comprendre nous-mêmes, mais quand le Seigneur nous les révèle, on les comprend. Comme Paul, il va parler ici de la grande connaissance qu'il a dans ce mystère-là, puis il nous l'explique, puis on peut le comprendre. Donc, dans le chapitre 2, 11, verset 3 à 12, c'est le mystère de l'Église. Et ensuite, on arrive au chapitre 3, les versets 13 à 21. C'est la deuxième prière de Paul pour les Éphésiens. Donc, il y a deux prières. Là, on arrive à la deuxième prière. Toute cette section-là, du chapitre 1 à la fin du chapitre 3, c'est la partie doctrinale de l'Épître. Donc, c'est Paul, il énonce la doctrine dans cette partie-là. Mais quand on arrive au chapitre 4, du chapitre 4 à la fin du chapitre 6, là maintenant, ça va être la pratique. C'est qu'on apprend la doctrine, ensuite de ça, on apprend comment fonctionner en rapport avec cette doctrine-là dans notre marche de tous les jours. Ça, c'est pour ça qu'on avait dit dans le livre de Josué, les espions sont allés pour donner, puis ont revenu pour donner un rapport du pays avec les bénédictions qu'il y avait, le pays où coule le lait et le miel. Puis ensuite de ça, ben, il fallait marcher, il fallait avancer, puis prendre possession du pays. Puis c'est ça qu'on voit à partir du chapitre 4. Donc, dans le chapitre 4, les versets, le verset 1 jusqu'à 6, verset 9, ça, c'est la marche du croyant. On va voir, là, il y a cinq façons de marcher dans cette section-là. Le chapitre 4, verset 1 à 16, c'est la marche dans l'unité. Très important. On va voir que les espions, ils n'étaient pas unis. Hein, on se rappelle, les espions, il y en avait 10 qui étaient contre les deux autres. Donc, il n'y avait pas l'unité. Puis, ils n'ont pas pu aller parce qu'il n'y avait pas l'unité. Puis, la marche, ici, c'est important dans Éphésiens. On doit marcher dans l'unité. Ensuite de ça, les versets, dans le chapitre 4, versets 17 à 32, maintenant, il nous dit de ne pas marcher comme les païens. Donc, on va voir ça. Chapitre 4, versets 17 à 32. Le chapitre 5, versets 1 à 7, c'est la marche dans l'amour. Il faut marcher dans l'amour. Dans le chapitre 5, les versets 8 à 14, c'est la marche dans la lumière. Il faut marcher dans l'amour, il faut marcher aussi dans la lumière. Puis dans le chapitre 5, les versets 15 au chapitre 6, verset 9, c'est la conduite, se conduire avec circonspection. Mais le mot est conduire, c'est le même mot dans l'original qui est traduit par marcher. Donc, il nous dit ici de conduire avec circonspection ou marcher avec circonspection. On verra ça quand on arrivera là. Dans le chapitre 6, pardon, les versets 10 à 20, c'est le combat spirituel. Parce qu'il y a un combat à livrer. Comme les Israélites, pour entrer dans le pays, il fallait qu'ils combattent. Il fallait qu'ils luttent contre les habitants du pays, qui était un jugement sur eux. Parce qu'ils faisaient des choses abominables, puis le Seigneur les enlevait du pays, mais il fallait qu'Israël combatte avec la puissance du Seigneur. C'était comme Paul veut dire, on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits, contre les dominations, les puissances des ténèbres dans les lieux célestes. On va avec les armes spirituelles. Il va nous énumérer les armes spirituelles pour le combat spirituel. Dans le chapitre 6, le verset 21-24, maintenant ça va être la conclusion de l'épître. Donc ça, c'est le plan que je vous donne de l'épître. Puis un plan comme ça nous aide un peu à voir les choses dans leur perspective. Donc, comme on avait dit, on avait vu la première partie de la liste des bénédictions. C'est ce que le Père avait planifié, l'élection, la prédestination dans l'éternité. Puis on avait parlé que nous, on entre dans cette élection-là par la naissance spirituelle. Il nous faut naître de nouveau, comme Israël devait naître d'Abraham. Nous, il nous faut naître en Christ parce que c'est lui qui a été choisi. Puis quand on entre en Christ, quand par la foi, bien, on est dans l'élection parce que Dieu a choisi Christ et ceux qui seraient avec lui pour l'éternité. Le refrain, on avait vu le refrain, célébrer la gloire de sa grâce. Donc, la gloire, c'est une manifestation ouverte de ce qui est caché. Donc, c'est une façon que Dieu, dans son plan de rédemption pour nous, c'est une façon que Dieu manifeste son être. Il manifeste son caractère, il manifeste sa puissance, il manifeste ce qu'il est lui-même. Donc, il met, en nous donnant ce plan de rédemption-là, bien, il manifeste sa gloire. Fait que nous, ça nous donne, quand on prend possession par la foi de ce plan-là de rédemption, bien, on manifeste la gloire de Dieu. On manifeste son amour, on manifeste sa puissance, sa sagesse infiniment variée, tout ce qui est en rapport avec le plan de rédemption de Dieu, bien, on le manifeste parce que, comme Paul pouvait dire, j'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, Paul, il pouvait affirmer ces choses-là parce que lui-même avait été sauvé par la grâce de Dieu, puis sa vie avait été transformée par la puissance de Dieu, puis maintenant, il vivait dans la puissance du Saint-Esprit pour accomplir l'œuvre de Dieu. Donc, maintenant, le Père, il a fait la planification, mais maintenant, il fallait que quelqu'un vienne en faire l'exécution. comme quand un architecte fait le plan d'une maison, mais ça prend maintenant un constructeur pour construire la maison. Puis ensuite de ça, mais ça va prendre un notaire pour en faire l'application ou faire la transaction à celui qui l'achète, la maison. On va voir avec le Saint-Esprit. Donc, on voit dans Ésaïe, dans Ésaïe 6 au verset 8, il dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. C'est ça qu'on voit avec le Seigneur Jésus-Christ. Si on va dans Hébreux 10, on voit que le Seigneur Jésus, c'est lui qui s'est offert pour venir, pour exécuter le plan que le Père avait fait. Donc, il fallait que ce plan-là soit exécuté. Puis c'est le Seigneur Jésus lui-même qui est venu pour exécuter ce plan-là parfaitement. Puis on est vraiment heureux que ce soit le Seigneur Jésus qui l'ait accompli. Ce n'est pas nous autres qu'on accomplit le plan de rédemption. Parce que si c'était nous autres, on n'aurait jamais l'assurance. Est-ce qu'on l'a fait comme il faut? Mais là, on a l'assurance parce que le Seigneur Jésus, lui, l'a accompli parfaitement. Puis la preuve, c'est que Dieu l'a ressuscité des morts. Dieu était satisfait de son œuvre et il a ressuscité des morts. Mais dans le chapitre 10 d'Hébreux, il dit, on va commencer par le verset 5. Il dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Quelqu'un dit qu'il est mort selon les Écritures. Il a été enseveli, puis il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Donc, il dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Donc, la prophétie avait prédit que Christ viendrait. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Donc, le Seigneur Jésus est venu pour faire la volonté du Père dans l'exécution du plan que Dieu avait fait pour notre rédemption. Mais on va dans les versets 7 à 8, il dit, en lui, donc c'est encore en Christ, quand on voit en lui, puis il a commencé, en lui, Dieu nous a élus, il nous a parlé de Christ, donc c'est en Christ qu'on a toutes ces bénédictions-là qui nous sont données parce qu'on ne sait pas. Mis en Christ par la foi. Quand on a cru au Seigneur Jésus, Dieu nous a placés en Christ. Donc, c'est une position maintenant qu'on a qui nous donne de posséder toutes ces choses-là. Donc, au verset 7 à 8, il dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Donc ici, il nous dit que la rédemption, c'est le rachat par son sang. C'est ça que la rédemption. C'est pas quelque chose que nous autres, on a gagné, comme avant dans la religion, on nous disait qu'il fallait gagner notre ciel. Mais on sait pas, le plan de rédemption de Dieu, on ne peut pas le gagner. C'est lui qui l'offre, mais il fallait que le Seigneur Jésus nous l'accomplisse. C'est lui qui faisait le rachat par son sang. Dans l'Hébreu, l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, il nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, il fallait absolument que le sang du Seigneur Jésus-Christ soit versé. Le mot rédemption ici, ça veut dire une rançon pleine, qui donne pleine quittance, qui donne délivrance. Donc, c'est une rançon qui est pleine, qui donne la quittance, la délivrance complète. Quand on parle de rédemption, c'est la délivrance par le paiement d'un prix. Puis il y a trois termes grecs qui sont dans le Nouveau Testament, des trois termes grecs principaux qui nous décrivent la rédemption. Il y en a un que le premier, c'est agorazo. On parle d'un agora, là. Un agora, c'est un marché. Agorazo, ça veut dire, le mot veut dire acheter un objet au marché. Donc, c'est comme on parle des esclaves. Quand il y avait des esclaves, on allait au marché, on achetait un esclave au marché. Mais le deuxième terme, il vient avec un préfixe différent, c'est le même mot avec un préfixe différent, c'est ex agorazo. Donc, un préfixe ex qui veut dire sortir. Donc, ça veut dire, dans ce terme-là, ça veut dire acheter et amener un objet hors du marché. Non seulement juste l'acheter, mais ça inclut aussi le soustraire au marché, à toute nouvelle transaction. Donc, maintenant, si on va dans Galates, au chapitre 3, verset 13, donc c'est non seulement juste d'acheter, mais c'est de le soustraire du marché, afin qu'il n'y ait plus d'autres transactions. Il n'est plus à vendre, comme on dit. 3:13 qui nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, Christ nous a rachetés, il nous a sortis du marché pour qu'il n'y ait plus d'autres transactions. C'est une transaction aussi dans Galates 4 au verset 5. Il dit, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Donc, dans ces passages-là, c'est acheter au marché, mais soustraire. Ça inclut le fait de soustraire du marché afin qu'il ne soit plus offert pour une transaction nouvelle. Donc, cet aspect-là souligne le caractère définitif de la rédemption. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont de la difficulté avec la sécurité éternelle du croyant. Mais il faut toujours se souvenir que cette rédemption-là, elle dépend pas de nous, elle dépend de Dieu qui a fait un plan de rédemption, du Seigneur Jésus qui l'a accompli parfaitement. Donc, ça nous donne vraiment ici une assurance éternelle. On sait que celui qui est sauvé, celui qui a été racheté, il n'est plus à vendre. Il peut plus avoir d'autres transactions. C'est une transaction définitive. Le Seigneur nous a fait passer de la mort à la vie. Il nous a donné la vie éternelle qui continue jusque dans l'éternité. Après ça, il y a un autre mot qui ici, c'est lutro. C'est un peu celui-là qu'on voit c'est dans Éphésiens, apolutrosis, il y a un ajout. Mais ça veut dire détacher et rendre libre. Détacher et rendre libre. Donc, pour ça que quand on sert le Seigneur, après qu'on a été racheté, c'est comme un esclave il y avait un esclave qui disait, j'aime mon maître, parce que le maître lui avait donné une femme, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, je ne sortirai pas libre. Sa liberté, il la prend pour rester avec son maître. Puis le maître approchait son oreille de la porte, du poteau de la porte, puis faisait un trou, puis ça voulait dire qu'il avait percé l'oreille. Ça veut dire que maintenant, il allait demeurer avec son maître. Puis c'est ça que nous autres, on fait. Quand on est libéré, le Seigneur nous donne la liberté, mais on utilise notre liberté pour rester avec lui, parce qu'on aime notre maître. 1 Corinthiens 6, 20 nous dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, ça, c'est, on voit l'aspect d'être racheté. Comme il nous dit, nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. Donc, c'est ça, on voit ici la rédemption. On a été rachetés, puis selon la richesse de sa grâce. On a été rachetés selon la richesse de sa grâce. Ça, c'est vraiment, on a eu le pardon des péchés. Puis c'est selon la richesse de sa grâce. Ça fait que c'est pas selon nous, c'est selon la richesse de sa grâce. Dans Romains 5, 20, il nous dit, car là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est tellement merveilleux quand on s'arrête à réfléchir là-dessus, là. Paul pouvait dire qu'il était le premier des pécheurs ou le chef des pécheurs, mais il y avait la grâce pour lui. La grâce est disponible à tous, même les bourreaux du Seigneur Jésus, quand ils l'ont cloué sur la croix. Le Seigneur Jésus a prié pour eux. Il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. La grâce, puis on peut regarder à nous-mêmes, puis oui, c'est vrai, on était des pécheurs, on était rebelles à Dieu, on a fait des choses abominables envers Dieu, mais la grâce a surabondé. Puis ça nous donne l'assurance. Il y a des gens qui disent, ah, moi, je suis un trop grand pécheur, je peux pas être sauvé. Oui, la grâce est suffisante pour quiconque, ça qu'il dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la grâce n'est pas limitée, comme certains veulent faire croire que la grâce est limitée. La grâce n'est pas limitée. La grâce, elle peut sauver n'importe qui. En autant qu'ils sont encore vivants sur la terre, la grâce est suffisante pour. Puis c'est ça qui nous donne l'assurance. En soi, on n'aurait pas d'assurance. Si la grâce n'était pas suffisante pour tous les péchés qu'on a commis, bien, on aurait des doutes. Mais la parole de Dieu nous dit vraiment, c'est selon la richesse de sa grâce. Donc, c'est vraiment quelque chose de grand ici. Grâce qu'il a répandue abondamment. Et regardez, il dit que Dieu, la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Donc, il a répandu sur nous la sagesse, c'est vraiment, c'est l'intelligence appliquée. C'est quelqu'un qui peut, quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui peut appliquer l'intelligence à des situations. Puis c'est ça que le Seigneur a appliqué sa sagesse et aussi par toutes sortes de sagesse ici qui dit, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Puis ça, c'est merveilleux. Vous savez, c'est pour ça que ceux qui croient là, que leur religion peut leur donner le salut, là, c'est tellement, comment je dirais, c'est tellement présomptueux de penser qu'on a réglé tous les petits détails de notre salut. On ne sait même pas. On peut pas connaître tous les détails qui ont besoin d'être réglés. Parce que vous savez, quand on va arriver, quand on est sauvé par la grâce de Dieu, là, quand on arrive devant Dieu, là, il dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Christ qui justifie. Donc, il y a tous les détails. Le Seigneur ne nous fera pas rentrer par la porte en arrière. Il ne dira pas, ben là, rentre, mais pour pas que personne te voie. Le Seigneur va manifester ouvertement notre salut. Puis, il n'y a personne qui va pouvoir rien dire contre le fait qu'on est justifié ou déclaré juste et qu'on va être dans la présence de Dieu pour l'éternité. Il n'y a personne qui peut. Parce que la sagesse. Puis l'intelligence, toute espèce de sagesse et d'intelligence, Dieu l'a déployé. Lui qui connaissait exactement tout ce qui était requis pour sauver un pécheur, puis le faire rentrer dans la gloire, bien, il l'a tout accompli. Moi, c'est merveilleux. On chante des fois, sur toi je me repose, ô Jésus mon Sauveur. Puis c'est un repos éternel de savoir que c'est lui qui l'a accompli. Puis, d'autres, on passe notre vie à toute notre vie depuis notre salut à découvrir les aspects de notre salut. Mais ils sont tous là. Ils sont tous acquis par le Seigneur Jésus, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Puis, ça, c'est vraiment merveilleux. Après ça, on arrive à. Ben, peut-être qu'on pourrait aller dans le chapitre 3, les versets 8 à 11. Éphésiens 3, versets 8 à 11. Il dit ici. À moi, c'est Paul qui parle, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. Donc, Paul avait eu de la sagesse. Dieu lui avait donné cette révélation-là pour qu'il fasse connaître. Donc, c'est quelque chose de vraiment grand ici. Mais, ensuite de ça, il nous parle au verset 9. Il dit, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Donc, on a ici la révélation de sa volonté. Sa volonté, si c'était un plan ou un dessein. Un dessin qui était bien défini, minutieusement. C'est pour ça qu'il nous parle ici, là. Le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre. Donc, Christ a accompli le plan de Dieu pour que pouvoir réunir toutes les choses. Puis ça, c'est son dessein, c'est son plan que Dieu a établi d'une façon minutieuse. Puis ce dessein-là, il nous dit qu'il est bienveillant. Bienveillant, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire rempli de bonté. bienveillant, rempli de bonté, puis mais il l'avait formé. Puis ça, c'était en vue de notre bien. Ça veut dire que ce plan-là était en vue de notre bien. Dieu a voulu notre bien en faisant un plan que pour notre rédemption, qu'il a fait exécuter par le Seigneur Jésus. Puis il l'avait formé en lui-même, qu'il avait formé en lui-même. Puis maintenant, pour le mettre à exécution. Dans 1 Corinthiens 2,16, il nous dit, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? On peut pas. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Quand on connaît sa pensée, c'est parce qu'il nous l'a révélée, parce qu'on n'aurait jamais pu connaître la pensée de Dieu s'il ne nous l'avait pas révélée. Mais c'est une grande bénédiction qui nous a fait connaître cette volonté-là, là. On va aller dans Romains 11, 33-36. Paul, il est vraiment ébloui par ce que le Seigneur lui a montré. Là. Puis, on appelle ça une doxologie, c'est-à-dire qu'il commence à éclater en gloire, donner gloire à Dieu quand il parle de ces choses-là. Dans Romains 11, les versets 33 à 36. Regardez, quand il parle du plan de Dieu de rédemption, il parle d'Israël, il parle de l'Église, il parle de toutes ces choses-là. Puis à la fin, quand il dit dans le verset 32, parce qu'il parle que nous, on était des désobéissants, le plan de Dieu était pour nous faire miséricorde. Et Israël sont maintenant désobéissants. Et ils vont reconnaître que le plan de Dieu peut les pardonner parce qu'il nous a pardonné, nous qui étions désobéissants. Donc, eux, dans leur désobéissance, ils peuvent aussi comprendre que Dieu peut les pardonner. Dans le verset 32, il dit, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Pourquoi? Pour faire miséricorde à tous. Puis là, Paul, c'est comme si il éclate dans une doxologie ici. Doxa, ça veut dire gloire, puis logie, ça veut dire la gloire. Donc, dans une doxologie, il dit, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire, dans tous les siècles. Amen. Quand on considère ces choses-là, on ne peut pas faire autrement que éclater en louange à Dieu pour sa gloire, pour ce qu'il nous a révélé là. C'est tellement merveilleux. Puis on peut comparer ça dans Éphésiens 3, 11. Il nous parle de ce plan-là selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, c'est un plan éternel, un dessein éternel de Dieu qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans le verset 10, maintenant, c'est le rassemblement. Dans le verset 10, il va nous montrer qu'un jour, le Seigneur Jésus va rassembler toutes choses. Ben, c'est sûr que pas ceux qui n'ont pas voulu de son salut. Eux, ils vont être enlevés de la terre. Ils vont être mis dans ils vont être mis dans l'étang de feu avec Satan qu'ils ont suivi. Mais Dieu va, par le Seigneur Jésus-Christ, il va réconcilier toutes choses afin que ce soit une parfaite harmonie entre le ciel et la terre. Puis ça va être ce royaume-là, tout va être en harmonie. Le rassemblement, il nous dit ici, pour le mettre en exécution lorsque les temps seraient accomplis. Donc, c'est dans le temps, dans l'accomplissement du temps ou la plénitude du temps, pour le mettre en exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc, ça va se faire quand le temps sera accompli. Puis c'est toutes choses. Et ça va être réuni en Christ. Parce que Christ va avoir réconcilier toutes choses avec lui-même, puis ensuite de ça, lui va se soumettre au Père. Donc, ça va être une harmonie. Dans la création, Dieu avait créé l'homme, il avait fait la création, mais quand le péché est entré dans le monde, bien là, c'est amené une rébellion de la création de Dieu contre Dieu. Donc, c'était une séparation. Mais là, maintenant, l'œuvre de Christ ramène Il va réunir, il va rassembler, il va réconcilier toutes choses avec lui-même, puis ensuite, lui va être soumis au Père. Puis il va amener tout dans la réconciliation avec le Père. Donc, les choses, ça va être l'harmonisation ici du ciel et de la terre. Tout ça se fait en Christ, là. C'est le Fils qui a exécuté, il a accompli le plan de rédemption, puis maintenant, il va l'amener à son exécution pour rassembler toutes choses en Christ. Ensuite de ça, on voit qu'au verset 11, là, c'est la remise de l'héritage. Encore en lui, en Christ. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Donc, on est ici, il y a une remise de l'héritage. Donc, c'est entrer en possession. Hein? Quand si notre père ou quelqu'un meurt, puis il nous donne un héritage, bien, il faut que cet héritage, en prendre possession de cet héritage-là, puis il nous est remis. On sait qu'aujourd'hui, avec les avocats, puis tout ça, bien, il exécute le testament. Ça veut dire que qu'est-ce qui a été les volontés de celui qui est décédé maintenant, c'est mis à exécution, c'est transféré à celui qui a reçu l'héritage. Mais il nous dit ici, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui. Donc, c'est encore tout selon le plan, selon le dessein de Dieu, selon le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Ça, c'est la remise de l'héritage, l'entrée en possession. Puis 1 Pierre 1, 4, 5 nous dit, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Donc, c'est un héritage qui est bien gardé, là. Il peut pas se souiller, se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Donc, c'est ça qu'on voit ici. C'est un héritage qui nous est gardé jusque pour l'éternité. Et puis, il est bien sécur là où il est. Là. Pas de problème. C'est ça qu'on voit là. Mais ensuite de ça, dans 1 Corinthiens 2, 9, il nous est dit en rapport avec cet héritage-là, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ça, c'est ça notre héritage. On ne peut pas s'imaginer, on peut pas. Quand le Seigneur Jésus parlait des choses célestes, il utilisait des choses terrestres qu'on connaissait pour nous aider à comprendre des choses célestes, parce qu'on ne peut pas se les imaginer. Il disait, le royaume des cieux est comme. C'est pas ça, c'est pas la réalité, mais c'est comme. Il nous donne des choses qu'on peut comprendre. Si je vous parle d'un fruit que vous avez jamais connu, ben comment qu'on donne un nom à ce fruit-là, ça vous aidera pas. Mais si je vous dis, c'est un fruit qui a la forme d'une poire, ben là, dans votre tête, tout de suite, vous savez c'est quoi la forme d'une poire. C'est que là, vous avez la forme du fruit, c'est tout. Il y a bien d'autres détails, là. On dit, ben, c'est velu comme une pêche. Ah, là, on commence à mettre les choses ensemble. On dit, ça goûte comme des fraises. Oh, OK, là, on a le goût, on a la forme, on a la consistance. Puis ainsi de suite. C'est comme ça que le Seigneur, il nous faisait connaître les choses célestes en nous parlant des choses terrestres. Mais les choses terrestres, ce n'est pas au complet, là. C'est juste une partie. Il nous fait comprendre un aspect de ce que ça va être. Mais c'est des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues, qui n'est jamais montée au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Fait que tout est planifié, puis tout va s'accomplir selon son plan. Parce que c'est lui qui opère, c'est lui qui est au contrôle. C'est ça qui fait ici. Puis ça, c'est ça. Puis là, maintenant, on vient au refrain. Dans le verset, attendez un petit peu, dans le verset 12, afin, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Donc, c'est par la foi, en anticipation, c'est pour ça que c'est la foi. On ne l'a pas vu encore, mais par la foi, on l'a accepté par la foi. Mais le Seigneur, il va nous le donner quand ça va être le temps. Maintenant, on a ça c'est à cause de la foi. Le Seigneur a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Hein, c'est ça, là, ceux qui croient sans avoir vu. Le Seigneur nous le dit, on le reçoit sans avoir vu. Puis le Seigneur Jésus, il a dit dans Jean 11, 40, Jésus a dit à Marie, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, parce que c'était devant la tombe de Lazare. Puis elle dit, il dit, roulez la pierre. Elle dit, ben, il sent déjà là. Mais Seigneur, je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Puis ils ont cru, puis ils ont vu la gloire de Dieu, parce que Lazare, qui sentait déjà, est sorti du tombeau vivant. Mais d'autres aussi, Seigneur dit, si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. On peut pas s'imaginer qu'est-ce que ça va être. On a des idées, le Seigneur nous a fait connaître des choses, mais quand on a la foi, on va voir la gloire de Dieu. Ça va être merveilleux de voir ça, là. Nous avons cru d'avance, c'est ça la foi, c'est d'avoir cru sans avoir vu, mais on a cru d'avance, puis ensuite, on va voir. La foi va donner place à la vue. Maintenant, on arrive au troisième couplet qui est le Saint-Esprit ici. À partir du verset 13. Il dit, en lui, encore en Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Voyez-vous l'ordre des choses ici qu'on voit là? Et donc, ils ont entendu, ils ont cru, et ensuite de ça, ils ont été scellés du Saint-Esprit. Ça, c'est là. Il y en a qui nous disent que le Seigneur nous donne la vie pour qu'on croit, mais dans l'ordre biblique ici, on voit que on a entendu, on a cru, puis on a été scellés du Saint-Esprit. Ça, c'est vraiment l'ordre dans le salut. Il faut d'abord entendre. Si on n'entend pas l'Évangile, dans Romains 10, il nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu sais, il y a des gens qui parlent de foi. Ils vont dire, ah, moi j'ai une grande foi. Ben, moi, je leur demande, foi dans quoi? Parce que c'est comme si les gens, ils pensent que la foi, c'est le but. La foi, c'est pas le but. Je peux avoir une grande foi dans une fausse religion. Ça ne m'aidera pas, là. Parce que le Seigneur, il dit, et je leur dirai ouvertement, il y a des gens qui vont venir, puis ils vont dire, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avons-nous pas fait des grandes œuvres à ton nom? Il dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Et ces gens-là, ils avaient de la foi pour faire ces choses-là, mais ce n'était pas la foi dans le Seigneur Jésus. C'est pour ça qu'il faut faire bien attention. Il y a des gens qui ont la foi, une grande foi dans une religion qui n'est pas la bonne. Ce n'est pas une religion. Il faut avoir la foi dans la personne du Seigneur Jésus. C'est lui qui a exécuté le plan, le dessein de Dieu pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Donc, c'est important dans quoi qu'on met notre foi, là. Faut savoir qu'est-ce qu'on croit, là. Faut connaître le message. Paul le dit dans 1 Corinthiens 15. Il dit, si vous ne retenez pas l'évangile dans les termes où je vous l'ai annoncé, bien, vous aurez cru en vain. Ils ont eu la foi dedans, mais ils n'ont pas eu la foi dans les bons termes. Puis les termes, c'est très simple. Les termes, c'est que Christ est mort selon les Écritures. Il a été enseveli. Et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Ça, c'est les termes de l'Évangile. C'est pas d'autre chose que ça. C'est vraiment l'œuvre que le Seigneur Jésus est venu accomplir pour le plan de rédemption de Dieu. Il fallait que le Seigneur Jésus vienne sur la terre, prenne un corps humain, devienne un homme et qu'il meure sur la croix selon ce qui avait été dit dans les Écritures. Tous les détails, quand le Seigneur était sur la croix, jusqu'au point qu'ils n'ont pas brisé aucun de ses os, ils ont percé ses mains, ses pieds, il a dit, j'ai soif, ils ont donné du vinaigre à boire, puis toutes ces choses-là se sont accomplies parfaitement selon les Écritures. Il a été enseveli dans un tombeau, il a été mis au nom des malfaiteurs, il a été mis dans le tombeau d'un riche, Puis il est ressuscité aussi, selon les Écritures, le troisième jour. C'est toutes les choses, ça s'est accompli parfaitement. Mais il faut entendre ces choses-là. Puis quand on croit le message entendu, ben ici, la transaction se fait de la part de Dieu. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de mettre notre foi dans l'œuvre que lui a, le Seigneur Jésus a accomplie pour exécuter le plan de Dieu pour nous racheter. Voyez-vous comment c'est important? C'est Dieu qui rachète. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Donc, c'est son plan à lui. C'est exécuté par le Seigneur Jésus. Puis nous, en mettant notre foi, Dieu fait la transaction. Maintenant, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de nous transmettre, c'est de nous rendre participants dans cette transaction-là qui nous est donnée. Puis, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là quand on met notre foi en lui? On est scellé. On est scellé du Saint-Esprit. Ça, c'est. Il y a trois aspects ici dans le sceau du Saint-Esprit. Le sceau, ça représente la conclusion d'un contrat. Premièrement, c'est la conclusion d'un contrat. Le sceau du Saint-Esprit, c'est que le contrat est conclu. On voit dans Jérémie 32, versets 9 à 10, Jérémie avait été dit d'acheter un terrain, puis il dit, j'ai acheté de Hanamil, fils de mon oncle, le champ qui est à Anatote. Et je lui pesai l'argent, 17 sicles d'argent. J'écrivis un contrat que je cachetai ou je scellai. Je pris des témoins. Je pesai l'argent dans une balance. Donc, il a fait un contrat. C'est ça que ça. Ici, le sceau du Saint-Esprit, c'est la conclusion du contrat. Il a fait un contrat. Il a pesé l'argent qui était Anamil lui avait dit de payer. Puis, il l'a écrit dans un livre. Puis, il l'a cacheté. Où il a scellé. Donc, c'est la conclusion d'un contrat. Dans Jean aussi, dans Jean 17, 4, le Seigneur Jésus, on voit le sceau qu'il fait ici. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Donc, le Seigneur Jésus a fait ce qui devait être fait, comme Jérémie a payé le prix. Pour que le contrat soit accompli, le Seigneur Jésus, c'est lui qui a payé le prix pour accomplir le contrat. Dans Jean 19, 30, on voit Jésus, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et il baissant la tête, il rendit l'esprit. Donc, la conclusion du contrat, à cause de l'œuvre que le Seigneur Jésus a fait. Le sceau aussi, maintenant, le sceau, c'est un signe de propriété. Dans le temps qu'il y avait la drève, avant ça, on coupait le bois l'hiver, on le mettait sur le bord d'un ruisseau, d'une rivière. Puis, au printemps, dans la crue des eaux, on brisait les roules, puis ça tombait dans le ruisseau ou la rivière, puis ça descendait vers le moulin. Mais quand les contracteurs allaient acheter le bois dans le bois, bien, il pouvait y avoir différents acheteurs qui allaient, puis ils mettaient un sceau sur le bout des bûches. Puis ça voulait dire que ça leur appartenait. Puis quand le bois descendait dans la rivière, quand ils arrivaient en bas, ils reconnaissaient leur sceau. Puis ça, c'était le signe de propriété. C'est ça aussi qu'on voit le sceau. Voyez-vous, dans Jérémie 32, versets 11 à 12, il dit, je pris ensuite le contrat d'acquisition, celui qui était cacheté, conformément à la loi et aux usages, et celui qui était ouvert. Donc, il y avait un contrat qui était cacheté, fermé, il y en avait un qui était ouvert pour être consulté publiquement. Mais l'autre était cacheté, puis lui, il était celui qui était ouvert. Je remis le contrat à Baruch, fils de Nerija, fils de Masséja, en présence de Hanamil, fils de mon oncle, en présence des témoins qui avaient signé le contrat d'acquisition, et en présence de tous les Juifs qui se trouvaient dans la cour de la prison. Donc, il y avait un sceau ici qui montrait que ce contrat-là était vraiment vrai. Puis maintenant, la terre lui appartenait. 2 Timothée 2,19, il nous dit. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ses paroles qui lui servent de sceau. On a le sceau ici, là. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc le Seigneur ici il a mis un sceau sur nous autres pour montrer qu'on est sa propriété. On lui appartient maintenant. Il nous a acheté un grand prix. Puis ça, Paul, il dit, vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Mais aussi, dans le troisième aspect de ce sceau-là de l'esprit, ben c'est un gage de sécurité. C'est un gage de sécurité. Comme on dit, nous autres, c'est une garantie. C'est comme une mise de fonds. Quand on veut faire une transaction, on met une mise de fonds. Quand on met une mise de fonds, qu'est-ce qui arrive? C'est que ça garantit qu'on va terminer le contrat. Quand on achète une maison aujourd'hui, ben, on fait une offre avec une mise de fonds. La mise de fonds est pour garantir que si je n'accomplis pas le contrat, si à la journée où on vient pour faire la transaction, que je n'amène pas le reste de l'argent, ben, je perds ma mise de fonds. Puis c'est ça, plus la mise de fonds est haute, ben plus le contrat est garanti. Parce que ça veut dire que je vais être capable d'exécuter le contrat à la fin. Je vais être capable de respecter l'entente, puis de verser le reste de la somme pour en prendre l'acquisition. Voyez-vous, dans Esther 8:8, il dit, écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira au nom du roi et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Ça veut dire que il y a l'aspect ici là, que le contrat que le Seigneur a fait, il nous a donné le sceau de l'Esprit pour dire que à la rédemption, quand on va être, Seigneur Jésus va revenir, là, il va nous transformer en un instant, en un clin d'œil, puis il va compléter cette transaction-là qui nous a garanti. C'est pour ça qu'on a de l'assurance. Dans Daniel 6, 17, il dit, on apporta une pierre, quand Daniel avait été mis dans la fosse aux lions, il dit, on apporta une pierre et on l'a mise sur l'ouverture de la fosse. Le roi scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Donc, on ne pouvait plus changer. Daniel, il avait été trouvé coupable. On a mis dans la fosse aux lions, puis on a scellé pour pas que ça puisse être changé, parce que c'était le roi qui garantissait. Mais c'est sûr qu'on peut se fier aux promesses de Dieu. C'est pour ça que les gens qui ont de la difficulté, qui pensent qu'on peut perdre notre salut là, quand on l'a eu. C'est sûr que si on ne l'a pas, on ne peut pas le perdre, on ne l'a pas. Mais quand on l'a eu, qu'on a mis notre foi, comme le Seigneur nous a demandé de faire, il nous a demandé de mettre notre foi dans l'œuvre que Christ a accomplie pour nous, ben, on peut se fier aux promesses de Dieu. Dans Ruth, comme on a vu dernièrement, ça ne fait pas longtemps qu'on avait lu dans Ruth au chapitre 3, verset 18, Naomi avait dit à Ruth, sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Puis, si on va dans Jean 10, 28, on va regarder quelques versets pour montrer que, vous savez, c'est sûr que quand on ne comprend pas la grâce de Dieu, ça ne fait pas de sens pour nous autres. On dit, parce qu'on est tellement habitué à un salut qu'il faut gagner, comment est-ce qu'on a pu le gagner? Mais là, ce n'est pas un salut qu'on a gagné, c'est un salut que Dieu nous a donné. C'est lui qui a payé le prix. Puis regardez dans le verset 28 de Jean 10, il dit, c'est le Seigneur Jésus qui parle, je leur donne la vie éternelle. Donc, ce n'est pas nous autres qu'on l'a gagné, c'est lui qui la donne. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Ça devrait être assez, c'est convaincant. C'est la vie éternelle, ça dure combien longtemps? Mais il dit ensuite de ça, à cause de notre incrédulité, il dit, et elles ne périront jamais. Fait que quand est-ce qu'ils vont pouvoir périr? Jamais. Puis ensuite, il continue, et personne ne les ravira de ma main. Ça, personne, mais moi, je suis une personne. Puis je ne peux même pas me ravir de sa main. Et personne ne les ravira de ma main. Puis il continue, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Donc, ça, c'est sécurité par-dessus sécurité. Le Seigneur, il veut pas qu'on soit dans le doute. Dans Jacques, au chapitre 4, on va regarder certains passages qui nous donnent, puis il y a beaucoup de passages qui nous donnent l'assurance. Puis il y a des gens qui réussissent à essayer de nier l'assurance qu'on a en Christ. Dans le chapitre 4 de Jacques, au verset 5, il dit: Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. On a parlé du sceau de l'Esprit, là. C'est que c'est le gage, là, que Dieu a donné. Il a mis son Esprit en nous. Puis il dit que l'Écriture, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Pensez-vous qu'on va se retourner, on se ramasser dans l'étang de feu avec l'Esprit de Dieu? Mais non, il a mis son Esprit en nous. C'est le gage qui va terminer, il va conclure la transaction au moment de la rédemption, quand on va arriver dans sa présence. Ensuite de ça, il y a dans Philippiens au chapitre 1, verset 6, Philippiens 1 au verset 6, Paul dit: Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. On va aller maintenant dans 2 Timothée. C'est des versets qui nous montrent la certitude que Dieu nous a donnée. 2 Timothée 1, 12, il dit ici: Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Son dépôt, c'est ce qu'il avait remis entre les mains du Seigneur. Puis notre salut, on l'a remis dans les mains du Seigneur. Puis il est capable de garder le dépôt. Dans Hébreux 10, 14, il dit: Car il l'a amené à la perfection. Peut-être on va y aller dans Hébreux. J'essaie de me dépêcher un petit peu, le temps est passé, là. Mais dans Hébreux 10, 14, il nous dit: Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. S'il n'y a pas d'assurance là-dedans, ben, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut voir l'assurance. Dans Romains 8, 38, Romains 8, 38, regardez qu'est-ce qu'il dit ici. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Pourquoi? C'est pour célébrer sa gloire. C'est ça le but de Dieu. Parce que c'est un salut qui se perdrait, là, comment ça pourrait donner de gloire à Dieu? Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Donc, c'est le troisième refrain ici qui revient, là. Puis il nous dit dans 2 Thessaloniciens 10, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, tous ceux qui auront cru. Il dit pas ben, ceux qui ont cru puis qui ont persévéré, c'est tous ceux qui ont cru. Il dit, car notre témoignage auprès de vous a été cru. C'est pourquoi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous serez glorifié en lui selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. C'est tellement merveilleux. Vous savez, si on ne se réjouit pas d'un salut comme ça, là, de quoi qu'on peut se réjouir? Si quelqu'un n'a pas l'assurance que son salut est éternel parce qu'il a été accompli par le Seigneur Jésus-Christ, qui nous a été donné, puis que le Seigneur est capable de nous garder, qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur, ben, moi c'est assez pour moi. C'est tout ce que. Puis il y en a tellement d'autres versets qui nous donnent cette assurance-là. Moi, je m'en réjouis. Parce que je sais que quand Dieu le dit, c'est vrai, je peux m'y fier. Fait que je m'arrête là. J'ai déjà dépassé un peu le temps pour vous donner le temps de pouvoir. Attendez un petit peu, de pouvoir avoir des commentaires. Puis, OK, vous pouvez prendre votre micro, puis je vous donne la parole. Je sais parler.
Oui, Gérald, c'est toute une lettre extraordinaire, ça, ce matin, ce
Hein?
soir. C'est toute une lettre, ça.
Ah oui.
Et on peut remercier le Seigneur que les Éphésiens ont reçu cette lettre-là.
Oui.
Et je regardais tout à l'heure, avait commencé dans le contexte que les Éphésiens ont reçu cette lettre-là. Ils vivaient dans la ville d'Éphèse, qui est une ville, la championne des fabricants d'idoles. Au acte
Ouais.
chapitre 19. Puis on voit, c'est quand il y a des grands troubles que la lumière resplendit le plus.
Oui.
Et dans acte 19, on va faire ça vite. Il dit, au verset 23, qu'il dit, il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Et cette ville, Éphèse, est une très grande ville. Elle est spécialiste dans l'idolâtrie, puis aujourd'hui, on en voit les conséquences encore. Et Paul écrit pour encourager les croyants d'Éphèse qui vivent dans ce trouble-là. Les croyants d'Éphèse, là, il faut se mettre à leur place. Ils sont dans le trouble parce que cette ville, c'est une championne de fabricants d'idoles. Puis pour moi, il y a des croyants qui se sont convertis, qui travaillaient dans les shops qui faisaient des idoles. Ça, c'est certain. Et il y a une chose qui était extraordinaire, que Paul, il s'inclut dans cette, dans cette, dans cette, dans ses écrits. On le voit aussi au verset, on va aller, je ne lirai pas tous les versets. Verset 4, il dit, en lui, Dieu nous a
Élu.
élus. Il s'inclut toujours. Il y a beaucoup de nous, là, parce que toujours Paul s'inclut pour encourager les croyants qui vivent dans une telle situation, là. Puis c'est aujourd'hui la même situation qu'on vit à notre époque. Les idoles, ce n'est plus des statues, ils sont plus subtils, ils sont plus, même plus dangereuses. Parce que c'est nous autres qui vont vers les idoles. On ne va pas les acheter, c'est nous autres qu'on y va. Je vais arrêter là, je vais en garder pour d'autres.
Il y a un beau verset qu'on pourrait lire, tu pourrais le lire peut-être aussi. C'est dans Jean 14, le verset 16. Gérald.
Et Jean 14, verset 16.
Ah.
Il y a plein de versets qui nous donnent 14, 16, qui nous dit ici, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Tout est éternel. Mon père me disait, à un moment donné, il dit, ben, c'est comme si tu étais au soleil, le soleil te chauffe, puis si tu t'en vas à l'ombre, il dit, mais ça, j'ai dit, c'est pas un bon exemple. Parce que le Seigneur n'utilise pas cet exemple-là. Le Seigneur dit qu'on est devenus des enfants de Dieu. J'ai dit, toi, tu es mon père, puis moi, je suis ton fils, toi, tu ne peux pas changer ça, puis moi non plus. C'est une relation qui ne peut pas se changer. On peut avoir une bonne relation ou une mauvaise, mais la relation, on ne peut pas la changer.
J'aurais un verset aussi.
OK.
L'évangile de Jean, Jean 17, le verset 24. C'est le Seigneur qui fait une prière au Père, puis j'aime ce verset-là, ça nous donne une assurance. On a parlé de l'assurance du salut. Ça se passe par plusieurs versets. Mais ici, c'est une prière que le Seigneur fait au Père. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. On a parlé de gloire ce soir. La gloire que j'avais, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. C'est un verset qui va bien avec ce qu'on a vu ce soir. Voilà.
Oui, il y a plein de versets qui donnent l'assurance.
Il y a un autre verset, moi j'aurais aimé, c'est Jean 6, 37.
OK.
Ouais. Il dit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Parce que, comme la semaine prochaine, on a parlé d'élection, puis. Celle-là, dans la deuxième partie du verset, là, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Sais-tu ça, qui vont venir avec le témoignage des, tu sais, que les personnes ont pu dire?
Oui, mais c'est ça, c'est des gens qui ont entendu l'enseignement du Père. Parce que dans le verset 45, il dit, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu, donc tous sont enseignés de Dieu, mais il dit, ainsi, quiconque a entendu le Père, quiconque a entendu le Père, a reçu son enseignement, vient à moi. Donc le Père envoie les gens vers le Seigneur Jésus. C'est un peu comme on avait parlé la semaine passée, je pense, de... Ah oui, quand Joseph a été mis intendant sur l'Égypte, quand les gens venaient à Pharaon pour avoir la nourriture, ben, ils disaient, allez à Joseph. Puis c'est ça que le Père, il nous amène, il nous envoie vers le Seigneur Jésus. Si on écoute l'enseignement du Père, il va nous envoyer vers le Seigneur Jésus.
Ah ouais, merci.
Oui. Mais l'assurance du salut souvent est ébranlée parce qu'on est des pécheurs. Puis au début de notre foi, au début de notre marche chrétienne, on imaginait qu'on ne serait plus pécheurs. Mais là, on s'aperçoit que malgré qu'on est des pécheurs encore, notre foi nous amène à consulter les Écritures pour avoir cette assurance-là. Pour moi, Romains 8, 36, c'est mon verset de bataille parce que oui, on est pécheur, mais on est pardonné.
C'est ça.
On est toujours pardonné. Fait que, évidemment, si on se confesse, là, mais c'est là que deviennent les gens qui n'ont pas d'assurance. C'est soit qu'ils ne sont pas sauvés, puis là, à ce moment-là, ils sont sur leurs propres efforts. Sinon, ben, celui qui a la foi doit consulter les Écritures pour vraiment réaliser que Christ a rendu vraiment parfait son sacrifice, puis qu'il va nous conduire jusqu'à la fin. On va être dans sa main.
Ben, comme Paul pouvait dire, je suis persuadé qu'il a le pouvoir de garder mon dépôt jusqu'à
Mon
ce qu'il vienne.
dépôt,
Parce que on s'est placé en lui par la foi, là. C'est comme quand on va travailler toute une semaine, puis à cette heure, ça se dépose directement dans notre compte de banque. Mais avant ça, on prenait notre chèque de paie, puis on allait le déposer à la banque. On ne déposait pas n'importe quel, là. On ne donnait pas ça à n'importe qui. On donnait ça à une banque qu'on avait confiance que le jour où on demanderait, il l'aurait. Mais si on. Parce que c'est à nous autres, on l'a confié. Puis c'est ça, quand il parle de mon dépôt, il garderait mon dépôt. On a confié le salut de notre âme au Seigneur Jésus, selon le plan de Dieu. C'est tellement.
Juste une petite chose. Il y a un principe concernant l'interprétation de la parole de Dieu. C'est que pour se faire une idée, il faut prendre des passages qui sont vraiment clairs. Et concernant l'assurance du salut, t'en as cité plusieurs, mais il y en a qui vont prendre des passages qui sont moins clairs, qui sont plus difficiles à comprendre. Ils vont être troublés par ces passages-là et ils ne se réfèrent pas aux passages qui sont vraiment clairs pour l'assurance du salut.
C'est ça. Ça, c'est vrai. Ça marche avec le temps est arrivé. Ça a passé vite. J'étais un peu trop long aussi, là. Mais ça fait que. Mais on va prier. Puis
C'était
ceux.
bon. C'était trop court.
Oui.
Oui,
C'était pas moins intéressant.
OK. Fait qu'on va prier pour ceux qui doivent partir parce que je ne veux pas abuser du temps. Là. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier pour des choses si merveilleuses que tu nous dis dans ta parole. Comment, Seigneur, tu nous as donné assurance par-dessus assurance parce que tu savais qu'on est des gens qui ont de la difficulté à croire. Mais comme tu as dit à Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te remercie pour ça, Seigneur. Puis on te remercie que le jour vient bientôt. Où le plan que tu as planifié de toute éternité, qui est exécuté par ton Fils, qui nous a été appliqué par ton Esprit, eh bien, le temps vient bientôt où on va rentrer dans ta présence pour l'éternité. Pour nous, de l'assurance devant ça, on veut célébrer ta gloire. Merci, notre Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prends soin de chacun ici, puis aide notre sœur Lucie à se remettre de son genou, son opération. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen.